les mythes indo-germains qui racontent l'épopée des peuples d'Europe, situe la terre du Graal dans l'île de Thule, la patrie des hyperboréens, à l'extrême nord du monde. Ici, dans cette terre des origines, les dieux du Nord vénèrent les tables d'or sur lesquelles Odin a gravé les runes magiques. Hyperborée, terre d'origine du Graal, est nommée la terre de l'éclairement dans les anciennes sagas scandinaves. Le Léber Gavala, le livre des conquêtes, raconte qu'au moment de la chute de l'âge d'or, le peuple des Tuatha des Danann quitta la terre polaire et descendit dans le temps des hommes affronter les Firbolg, les forces de l'âge noir. Le Léber Gavala les décrit comme de grands guerriers blonds, commandés par le roi Nuada, vêtus d'un pectoral de bronze, ornés d'entrelacs celtiques, portant lances, boucliers et casques à cornes. Ce combat gigantesque eut lieu en Irlande, dans la plaine du mouillé Tura. Cette première bataille dura 4 jours. Et on dit qu'elle fit trembler les étoiles. Ces 4 journées, qui appartiennent à la vieille mémoire européenne, sont appelées les 4 jours du sang. C'est le combat fondateur. C'est de lui que vient la civilisation du Graal, qui traverse toute l'histoire des peuples indo-germaniques. Le Graal n'est pas seulement une connaissance, une initiation réservée aux chevaliers de la quête. C'est aussi une réalité géographique, l'histoire d'un peuple, d'une civilisation. C'est ainsi que les peuples de l'âge d'or quittèrent les terres de l'Arctique, descendirent sur l'Islande, l'Irlande, la Norvège, et se déployèrent à travers l'Europe, atteignirent le Caucase, la Perse et l'Inde des Aryas. Ces peuples celto-nordiques amenaient avec eux le culte du soleil invaincu, la vision du retour éternel, une conception héroïque et tragique du monde. Ils disparurent un jour, selon l'antique loi des cycles, connurent eux aussi le crépuscule des dieux, et le Graal fut perdu.
De l'âge moderne. Cette orientation nous va faire d'emblée au pôle céleste. Nouvelle-Zélande. Paul Céleste, elle tente d'entrer pour l'homme ce que j'ai appelé la dimension polaire, la dimension verticale. Quelque chose d'autre qui s'oppose radicalement à la conception purement rectilinéaire et unidimensionnelle, la conception courante de l'homme de nos jours. D'autre part, la référence à ce Paul Céleste, acte de la tour en particulier, initialement, chez Rudyard Maclay de Girard, la grande mystique de Girard, du XIIe siècle, mais immédiatement au cœur de symboles tout à fait frappants, ce que j'ai appelé les symboles du Nord. Et en effet, nous nous trouvons là d'emblée, devant l'expérience et la teinte d'une lumière qui n'est ni celle du monde du jour, ni celle du monde de la nuit, mais qui est un monde contraire, un monde de la lumière qui éclate en pleine nuit. Ce n'est ni crépuscule matinal, ni crépuscule du soir, mais cet éclatement de la lumière en pleine nuit. On motive ces symboles du soleil de nuit. Il n'emploie pas exactement cette expression, mais elle ressort des expériences de Hermès Kitchen, héros de l'expérience mystique et des expériences extatiques de lumière, d'explosion, d'éclatement de lumière en pleine ténèbre, en pleine nuit. Mais c'est en somme une répétition à distance de l'extraordinaire test de la pulée de la médianoté d'Ili Solem Coruscantem en pleine nuit, je dis un soleil étincelant. Et l'importance de cette orientation, de cette dimension et de cette nuit de lumière, c'est de vous imposer une double notion de la nuit et de la ténèbre. Si nous voulons rester fidèles à l'analyse, aux expertises, aux auteurs que nous avons interprétés, il faut absolument disposer le jour qui puisse rendre compte de la différence fondamentale entre la nuit des jours, la nuit de lumière, le soleil de jour et la nuit du monde.
Nous sommes ramenés à cette expérience fondamentale d'un mois terrestre qui découvre le monde.
poisson liant pur et simple et qui aspire à fondre comme une goutte d'eau dans l'océan, mais qui découvre la contrepartie céleste à celle de lui une totalité, une unité complète, un terreau.